Guerre et paix. Première partie, chapitre 5, scène 15. Rostov, de retour après son congé, sentit pour la première fois la force des liens qui l'attachaient à Denisov et à son régiment. À la vue du premier hussard à l'uniforme déboutonné, à la vue de Dementiev le roux, à la vue des piquets de chevaux alezans, et enfin à la vue de Lavrouchka criant joyeusement à son maître
« Le comte est arrivé !»
à l'embrassade de Denisov, ébouriffé, endormi, sortant en hâte de sa hutte, et à l'accolade de ses camarades, Rostov éprouva la même sensation qu'à son arrivée à la maison paternelle lorsque son père, sa mère, ses sœurs l'avaient étouffé de baisers et des larmes de joie lui montant au gosier l'empêchèrent de parler. Après s'être présenté au chef du régiment, en avoir reçu les mêmes fonctions dans le même escadron, après s'être enquis des moindres détails, il trouva dans cet adieu à sa liberté et dans le devoir qu'il remplissait en reprenant sa place dans ce cadre étroit, le même sentiment de quiétude et d'appui moral qu'il avait eu dans sa propre famille. Car le régiment, au bout du compte, n'était-il pas devenu pour lui un home aussi cher que la maison paternelle ? Il n'y avait pas là ce tohu-bohu du monde qui l'entraînait parfois à des erreurs regrettables. Il n'y avait pas Sonia, avec laquelle il ne savait jamais s'il fallait ou non s'expliquer. Il n'y avait plus la possibilité de courir dans 10 endroits à la fois, ni ces 24 heures qu'on pouvait tuer de façon diverse, ni cette foule composée en majeure partie d'indifférents, ni ces demandes d'argent pénibles et embarrassantes, ni la terrible perte au jeu avec Dologov. Ici, tout était clair et précis. Le monde entier était partagé, pour lui, en deux parties inégales. L'une était notre régiment de Pavlograd, l'autre tout le reste, dont il n'avait qu'un médiocre souci. Tout y était connu. On savait qui était le lieutenant, qui était le capitaine, qui était un vaurien, qui était un bon garçon. Et ce qui primait tout, c'était le camarade. Le cantinier faisait crédit. On touchait sa paye tous les 3 mois. Par suite, rien à choisir, rien à combiner. Tout se bornait à se bien conduire et à accomplir exactement et scrupuleusement l'ordre reçu. Replacé sous le joug et les habitudes de la vie militaire, il était aussi heureux que l'est un homme fatigué de pouvoir se coucher et se reposer. Cette existence lui fut d'autant plus agréable qu'il s'était juré, après sa perte au jeu, action qu'il se reprochait toujours malgré le pardon de ses parents, de ne plus jouer et, pour réparer sa faute, de servir d'une façon irréprochable, en bon camarade et en officier sans reproche, c'est-à-dire de devenir un parfait galant homme. Ce qui, dans le monde, était loin d'être facile, tandis qu'au régiment, rien n'était plus aisé. Enfin, il s'était promis de rembourser ses parents en 5 ans, de ne toucher que 2 000 roubles sur les 10 qui lui étaient annuellement alloués et de laisser le reste à leur disposition. À la suite de plusieurs retraites, de plusieurs marches en avant et de plusieurs combats à Pultusk, à Prusichello, notre armée s'était enfin concentrée à Bartenstein. On attendait l'arrivée de l'empereur pour commencer la campagne. Le régiment de Pavlograd, qui avait pris part à celle de 1808 et qui venait seulement de rejoindre l'armée active après avoir complété ses cadres en Russie, n'avait pas pris part à ses premiers engagements. Dès son arrivée, il fut réuni au détachement de Platov, indépendant du reste de l'armée. Les hussards avaient eu à plusieurs reprises de légères escarmouches avec l'ennemi, et avait même fait une fois des prisonniers en s'emparant des équipages du maréchal Oudinot. Le mois d'avril se passa à bivouaquer près d'un village allemand ruiné et désert. Le dégel arrivait. Il faisait froid et sale. Les rivières charriaient et les chemins devenus impraticables arrêtaient la distribution de fourrage pour les chevaux et de vivres pour les hommes. Les soldats se répandaient dans les villages abandonnés à la recherche de quelques maigres pommes de terre. Il ne restait plus rien. Les habitants étaient en fuite, et ceux qui étaient demeurés en arrière, arrivés au dernier degré de la misère, étaient un objet de pitié pour les soldats, qui, privés de tout, leur donnaient encore du sien, plutôt que de le leur enlever leur dernière bouchée. Le régiment avait perdu 2 hommes dans les derniers engagements, mais la maladie et la famine l'avaient réduit de moitié. La mortalité était telle dans les hôpitaux que le soldat, exténué par la fièvre et par l'enflure, résultat de la mauvaise nourriture, préférait continuer son service et traîner dans les rangs ses pieds endoloris plutôt que d'entrer à l'hôpital. Les premiers jours du printemps, les soldats découvrirent dans la terre une certaine plante semblable à l'asperge, qu'ils appelèrent, on ne sait trop pourquoi, racine douce, bien qu'elle fût au contraire très amère. On les envoyait la chercher de tous les côtés, la déterrer et la manger, malgré la défense qui leur en avait été faite. Une nouvelle maladie, la tuméfaction des pieds, des mains et de la figure, considérée par les médecins comme provenant de l'emploi de cette plante nuisible, fit parmi eux de nombreuses victimes. Et, cependant, l'escadron de Denissov se nourrissait principalement de cette racine. Il y avait 15 jours qu'il ne recevait plus qu'une ration réduite de biscuits, et les pommes de terre qu'on avait envoyées en dernier lieu se trouvaient gelées et germées. Les chevaux, dont la maigreur était effrayante, ne se nourrissaient que de la paille des toits, et leurs poils d'hiver se hérissaient en touffes entremêlées. Malgré toutes ces misères, officiers et soldats continuaient leur même existence. Pâles et la figure gonflée, couverts d'uniformes déchirés, les hussards s'alignaient comme d'habitude, allaient au fourrage, au pansage, nettoyaient leurs fourniments, arrachaient la paille des toits, dînaient autour de leur chaudron et se levaient de là affamés et plaisantant sur leur maigre chair et sur leur faim. À leur moment de loisir, ils allumaient comme toujours leur feu, s'y chauffaient tout nus, fumaient, triaient et cuisaient leurs pommes de terre gelées et gâtées, en se racontant des histoires sur les guerres de Potemkin et de Souvorov, ou des récits merveilleux sur Alesha, le panier percé, ou sur Mikolka, le manœuvre. Les officiers demeuraient par 2 et par 3 dans les cabanes délabrées. Les anciens s'occupaient de la paille, des pommes de terre, l'argent abondait, quoiqu'on n'eût rien à manger. Et la plupart passaient leur temps à jouer aux cartes ou à d'autres jeux plus innocents, tels que les osselets ou la svaïka. On causait peu des affaires en général, surtout parce qu'on devinait qu'il n'y avait rien de bon à apprendre. Rostov logeait avec Denissov, et le premier comprenait que, tout en ne lui parlant jamais de sa famille, c'était à son amour malheureux pour Natacha qu'il devait la recrudescence de son affection, et leur amitié réciproque n'en devenait que plus vive. Denissov exposait le plus rarement possible son ami au danger, et l'accueillait avec une joie expansive lorsqu'il le voyait revenir sain et sauf. Dans une des reconnaissances où Rostov avait été envoyé pour chercher des vivres, il trouva dans un village voisin un vieux Polonais avec sa fille qui allaitait un enfant. À moitié nu, mourant de faim et de froid, il n'avait aucun moyen de s'éloigner. Il les amena au bivouac, les logea chez lui et les secourut quelque temps jusqu'au rétablissement du vieillard. Un camarade, venant à causer de femme, assura en riant que Rostov était le plus fin d'entre tous et qu'il aurait bien dû leur faire connaissance avec la jeune et jolie Polonaise qu'il avait sauvée. Vivement blessé de ses propos, il répondit à l'officier par une volée d'injures. Et Denissov eut toutes les peines du monde à les empêcher de se battre. Lorsque l'officier fut parti, Denissov, qui ignorait lui-même la nature des relations de son ami avec la Polonaise, lui fit des reproches sur son emportement.
« Mais comment veux-tu que j'agisse autrement ? Je la regarde comme ma sœur, et je ne puis te dire à quel point j'ai été blessé. Car enfin, c'est comme si... »
Denissov lui frappa sur l'épaule et se mit à marcher en long et en large, signe chez lui d'une forte émotion.
« Ah, quel diable de race que c'est Rostov !»
murmura-t-il. Et Nicolas vit briller des larmes dans les yeux de son ami.